Bonjour à tous. Merci Seigneur parce que tu me donnes la hardiesse. Non pas aussi pour parler à l'extérieur de l'église, mais pour parler aussi ici dans l'église parce que c'est pas toujours facile non plus. Juste un petit mot pour rebondir sur ce que Philippe a dit par rapport au Dieu trinitaire. Dieu est un, le Seigneur est un, Adonai Echad. Echad, en hébreu, c'est comme une grappe de raisin. Donc oui, il n'est pas un, il n'est pas trois, mais il est comme ça, entier, comme une grappe de raisin. Ma famille, quand je reviens ici, à chaque fois, pourtant, c'est vrai qu'il y a eu des choses, je n'ai pas pu venir autant que je voulais parce que je passerais ma vie dans cette église. Mais ça, ce n'est pas bien. On a des choses à faire dehors. Mais oui, quand je suis là, oui, Dieu est là encore plus fortement, même s'il est partout. Mais il est là, il est présent au milieu de nous. À chaque fois, comme votre présence, elle me réchauffe le cœur. Ce qui s'est passé ce matin, c'est tellement énorme. C'est tellement ce qu'on attendait tous. Mais quelle église! Alors justement, ça fait 17 ans que je suis au milieu de vous. 17 années. Certains sont partis, d'autres se sont greffés à notre belle église. 17 ans pour ma part de message. Qu'est-ce qu'on grandit aussi avec la prédication? Des livres qu'on a échangés. Des prières. On a prié les uns pour les autres. Que de joie, que de peine aussi. Moi, ma première Bible, elle est à la campagne, à la maison de campagne. Ses pages, elles sont toutes déchirées, toutes écornées. Elles sont fatiguées, les pages. Elles se détachent, mais je la garde parce qu'elle est précieuse. Hein. C'est un témoin. Elle a été aussi témoin de mes doutes. Elle a été aussi témoin de mes colères. J'ai pu quelquefois aussi la regarder avec ennui, c'est vrai. Puis quelquefois avec perplexité. Mais tout ça, ça fait partie de mon chemin. C'est celle que je suis aujourd'hui à travers tout ça. Pour aujourd'hui, je n'avais pas vraiment de fil conducteur pour le message. Alors moi, je suis toujours très, très pressée. Je ne tiens pas vraiment en place. Donc, oh Seigneur, inspire-moi. Puis après, je passe à autre chose. C'est peut-être compliqué aussi pour Dieu de me parler par moment. Par contre, il en est ressorti, Dieu fait grâce, hein. Il en est ressorti un chant. Il en est ressorti quelques mots, mais ces mots-là, ce n'est pas des moindres, hein. Donc, forte de ces mots, j'ai fait quelques recherches parce que ça fait partie de moi. J'ai essayé de faire autrement, mais non, il faut que j'aille voir dans mes livres, dans les phrases qui m'ont marqué, les phrases qui tapent comme ça et qui m'ont ouvert l'esprit. Des véritables révélations, même quelquefois hein, aussi, pas seulement à travers la Bible. Il y a aussi des mots et des tournures qui ont pu me troubler, vous verrez. D'où l'importance de tout mettre à la lumière du Saint-Esprit. Les mots ne sont rien sans la parole de Dieu pour les animer. Donc, à cause de la parole, je vais témoigner. Et j'espère, et là, je n'en doute plus que ça va vous parler, tout ça. Comme je vous le disais, donc on chemine, on marche ensemble. On fait partie d'une même tribu, hein, on va dire. Il y en a qui sont devant, d'autres au milieu, d'autres derrière, mais on est tous ensemble. L'important, c'est d'être ensemble. Et là, justement, ce matin, je me rends compte d'une chose, c'est que Dieu a mis une sorte de... comment dire, un coup d'arrêt, en fait. Il y a comme une rupture avec ma mentalité d'avant. Il y a des choses, il fallait vraiment que ça change. Et à propos de chemin, donc, il y a eu un ébranlement, on va dire, dans ma propre marche, quoi. Enfin, un ébranlement, alors je m'imagine comme un convoi, hein, un gros convoi bien chargé, des fois, bon, qui est là, qui avance. Et là, le convoi, il s'arrête et il sait qu'il va changer de direction. C'est lourd à remuer, ça fait du bruit. Et effectivement, il y a eu ce temps d'arrêt parce que, en préparant même mon message, je ne savais pas où aller. Ça allait plus profondément que ça, en fait. Et je comprends que le nouveau sens de la marche, alors Philippe a parlé de profondeur, mais moi j'ai parlé de décoller. Je ne sais pas vous, mais la marche en avant, comme ça, c'est fini. Maintenant, ça doit monter. C'est-à-dire que Dieu ajuste nos cœurs vers les réalités d'en haut. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'attraction céleste doit toujours dominer sur la gravitation terrestre. Alors des fois, ça tiraille un peu, hein, on est tiraillé entre le haut et le bas. Ça aussi, ça nous fait grandir. En fait, on doit avoir ce détachement des choses du monde. Et pour cela, pour ma part, en tout cas, Dieu a utilisé encore une fois les épreuves, hein, qui ont déclenché l'ascenseur, en fait. Ah, ces épreuves qu'on redoute, hein, ces véritables forges où sont modelés notre caractère et notre foi. Et c'est dans ce feu-là qu'on fait la rencontre avec le Christ ressuscité. Donc, c'est le titre de mon message ce matin, c'est la rencontre avec Christ ressuscité. Alors, je vous donne le premier mot qui est le mot résurrection. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Moi, je trouve qu'on peut aller aussi de résurrection en résurrection, de guérison en guérison. Alors, la bannière verte, c'est la bannière de la guérison. C'est aussi la bannière de la résurrection. Alors, les deux mots ne sont pas tout à fait pareils, mais ils s'accordent parfaitement. C'est pas un hasard qu'Anaïs a pris cette bannière. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, en fait. Enfin, en fait, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Moi, je la vois souvent, je vois souvent ce vent de résurrection au milieu de l'Église et quelquefois sur une personne en particulier. Et dans ces moments-là, plus que jamais, Jésus nous dit, le ciel et la terre se rejoignent en moi. Ce sont ma vie, ma mort et ma résurrection qui apportent l'esprit de gloire dans le monde et donc dans ta vie. Je vais vous dire deux mots de mon baptême. Quand Alain m'a baptisée, je n'avais pas compris le véritable sens du baptême, de l'ensevelissement en fait, et de la résurrection bien sûr. Et en plus, alors là, pour le coup, il est vrai que Romains 7, vous savez, je vais prendre ma Bible. Alors, j'ai une version qui est la Bible juive complète parce que c'est celle que je lis en ce moment et j'aime bien cette version. Alors, vous connaissez tous l'exemple de la femme mariée qui est liée à la loi par son mari. Voilà. Donc, il est dit dans Romains 7, donc c'est Romains 7, 1 à 3, je vais juste lire ça. Si donc elle épouse un autre homme du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle devient la femme d'un autre. Et moi, en fait, j'avais compris que le mari était mort. Mais moi, j'étais pas morte du tout. En fait, j'étais très vivante. Donc ensuite on va dans Romains 4 dans Romains toujours Romains 7 mais verset 4. Ainsi mes frères, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Messie, oui, là c'est marqué Messie, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Et là j'ai compris il y a eu l'aide aussi d'un livre que m'avait prêté Gabi à l'époque, le Watchman Nee, qui est extraordinaire. Ça m'a aidé à comprendre que finalement, Oui, j'étais vraiment morte aussi. Il m'a fallu intégrer, en fait, cette mort. Et à un moment, j'ai compris que j'étais morte parce que, en fait, pour moi, c'était la loi qui devait disparaître. C'est pas moi, c'est la loi. En fait, la loi, elle ne disparaît pas. Elle est toujours là. La seule façon, c'est que je disparaisse, moi, au regard de cette loi. Et là, j'ai eu, je pense, la première vision révélée, ou je veux dire, que j'ai comprise, hein, parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'une vision. Je me suis vraiment vue ensevelie. C'était, mais c'est, je pense que, enfin, j'ai eu une joie extraordinaire de cette libération, mais complètement spirituelle que j'ai vécue, où mon Sauveur m'a arrachée à la mort et je suis ressortie donc de l'autre côté. Mais littéralement, en fait, c'est d'un monde à un autre, hein. Et je me souviens, Didier faisait encore partie de notre église et je l'ai appelé et je lui disais, mais Didier, mais on est mort en fait. Et c'est vrai que ça l'avait fait beaucoup rire, mais ça a vraiment été une découverte pour moi. C'est comme si on change de pays finalement. Chaque pays a ses lois. Et quand vous changez de pays, ça annule pas la loi de l'autre pays que vous venez de quitter, mais vous n'y êtes plus assujetté puisque vous êtes dans un autre pays. Du coup, de Romains 7, je plonge dans Romains 8, 1 et 2. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Torah de l'Esprit qui produit cette vie en union avec Jésus-Christ m'a libérée de la Torah du péché et de la mort. Et là, surprise. Parce que les mots donc, que j'avais en tête, eh ben, il y avait aussi ces deux mots-là, il y avait péché et mort. Alors du coup, ça m'a motivée pour continuer mes recherches. Et donc maintenant, on a le mot péché. Ma propre compréhension du péché, elle m'agace encore vraiment parfois. J'ai beau savoir. On me l'a dit, on me l'a répété, mais c'est un vrai combat. Il y a quelque temps, j'ai retrouvé un enseignement sur Internet de notre cher Pierre Cranga, dont le cheval de bataille, vous savez tous, c'est l'amour du Père. Hein. Et il nous donne une explication qui est très pertinente pour nous expliquer quelquefois pourquoi on pense de travers. Alors, pour lui, il y a deux courants de pensée. Il y a la pensée orientale et la pensée occidentale. Et dans la pensée occidentale, le péché, c'est une rupture légale avec la loi de Dieu. D'accord? Ce qui n'est pas faux, hein? Mais il faut toujours avoir en tête que ce qui nous semble être une vérité, quelquefois, ben, si ce qui nous semble être une vérité nous détruit, ben, c'est que c'est un mensonge, en fait. Et dans la pensée orientale, le péché, c'est une rupture dans la relation. Donc, ce qui n'a rien à voir, hein. On le sait, mais on se fait encore piéger parce que je pense qu'on est parasité de toutes parts par notre culture, par notre passé, par notre héritage. Mais si quelquefois notre cœur nous condamne, mais Dieu, il ne nous condamne jamais. Ça, c'est une vérité qui ne détruit pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué le lien entre épreuve, péché, culpabilité. Parce que le seul qui a été éprouvé sans péché, c'est Jésus. Hein. Alors une épreuve arrive parfois, et puis là, on sent qu'on va glisser sur la pente savonneuse de ce qu'on ne veut pas faire, et qu'on fait. Donc quelquefois, c'est simplement le doute, hein. On se met à douter de la parole, à douter de Dieu, à douter même de son existence. Hein. C'est un péché hein, aussi. On peut se mettre en colère, prendre des mauvaises décisions, puis il y a des choses beaucoup plus graves hein, que ça. Et en fait, la culpabilité, elle arrive. Et donc là, c'est le moment de se rappeler le verset extraordinaire de 1 Corinthiens 10, 13 qui nous dit qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu, qui est digne de confiance, ne permet pas que vous soyez éprouvés ou mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Vous savez qui a dit ça? Hein? C'est Paul qui a dit ça. C'est Paul qui a rencontré le Christ ressuscité. Paul, il a perdu la vue, le manger, le boire. Pendant 3 jours, il était terrorisé. Vous voyez l'épreuve. Et là, il s'adressait à l'église de Corinthe, qui était une église qui était réputée pour toutes sortes d'abus et d'immoralités. Et quand, d'ailleurs, un truc que j'ai appris, c'est que il y a un mot, quand quelqu'un était dans une idolâtrie ou coupable de débauche, on disait il corinthise celui-là. Et donc Paul, il s'adressait à cette église-là, donc qui était dans l'immoralité, et il leur disait mais Dieu, il va vous donner la force de surmonter cette épreuve, il va vous donner le moyen de vous en sortir. Donc là, on voit bien que justement, c'est ni par puissance ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Pour Dieu, nous sommes de l'or dans le creuset. Et c'est dans le creuset, là justement, que le chant, il y a un chant qui m'est venu. Vous connaissez tous ce chant, c'est « Ma vie est entre tes mains, je compte sur toi, ton amour toujours présent. » Je compte sur toi. Si les montagnes s'écroulent dans la mer, je compte sur toi. Je ne gère plus par moi-même mes galères, je compte sur toi. Ça, c'est moi qui ai inventé. C'est ça le repos, quelque part. Dans le creuset, il nous donnera lui-même la force, il nous donnera lui-même son Saint-Esprit pour nous aider. Parce que la morale chrétienne ne nous donnera pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous donnera une morale chrétienne. C'est écrit, si on continue dans Romains 8, 3, on voit que la loi qui contient la morale, en fait, elle manque de puissance pour agir sur la vieille nature. Là, c'est pour ça que j'aime bien ce verset-là, cette traduction-là. Car ce que la loi ne pouvait accomplir par elle-même, manquant de puissance pour agir sur la vieille nature, Dieu l'a fait en envoyant son propre fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Et à la fin, nous nous présenterons purs, sans tache, remplis du fruit de l'esprit, du fruit de justice, pardon. Et ce sera le couronnement d'une vie entière, il faut le dire, à lutter contre le péché. Hein. Parce que nous sommes dans un processus qui durera toute notre vie. Et en avançant dans les étapes de la nouvelle naissance, nous allons de progrès en progrès. Alors le troisième mot, c'est mort. Alors quand j'ai reçu ce mot, et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, j'ai compris après, j'ai creusé sur autre chose, hein, j'ai pensé à autre chose. Mais je l'ai mis de côté, mais j'en parlerai parce que c'est important. Là, à ce moment-là, je pensais quasiment avoir fini mon message, mais il y a un truc qui ne collait pas. Ça ne collait pas vraiment. Et puis, il m'arrive quelque chose qui m'a... brisé. Mais alors, et là, j'étais là avec mon beau message, voilà, Nathalie, non. Et j'ai dit, mais tu vas apporter une chose, en fait. Est-ce que tu crois ce que tu dis, là? J'étais vraiment, vraiment ébranlée. Et vous voyez, on se fait piéger encore très vite, hein. Et puis, évidemment, Dieu ne m'a pas abandonnée. Alain m'envoie un petit message pour me rappeler que c'est moi justement qui donne le message. Dis, ouais. J'étais pas fière. Dis, ouais, d'accord, Alain, je ne parle pas de mon problème. Je lui dis juste, je lui donne 2-3 petits trucs. Je vais dire ça. Et merci parce que Alain parle avec l'aide du Saint-Esprit. Il m'a ouvert une voie. Et du coup, je suis restée donc sur Romains. Romains 8, donc 6 à 7. Car vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature. Non, c'est plus haut. Si vos pensées sont contrôlées, c'est 6 finalement, hein, si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, c'est la mort. Mais si vos pensées sont contrôlées par l'esprit, c'est la vie et la paix. Ah, mais c'est ça le champ de bataille des pensées finalement. Ah, d'accord. Donc oui, effectivement, là, j'étais à bout de souffle, j'avais la tête à peine sortie de l'eau et j'étais dans des pensées mortelles. Hein. J'étais vraiment dans des pensées mortelles. Et là, j'ai une phrase que j'avais entendue. Je l'ai adaptée à ma situation et là, j'ai eu l'impression de me retrouver de l'autre côté du miroir. Cette phrase, elle est géniale. Alors là, je vais vous donner la situation donc, dans laquelle le pasteur, donc, c'était sur un message, a reçu cette phrase. C'est une situation d'une personne qui était malade. Hein. C'est un contexte de maladie, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Mais on peut adapter cette phrase en utilisant la parole de Dieu. Vous pouvez adapter cette phrase à toutes les situations. Cette phrase, c'est donc là, on parle de résultats d'analyse de sang, donc je sais que ça va parler à quelqu'un. Alors, les mauvais résultats, quand on a des mauvais résultats d'une analyse de sang, d'accord, cholestérol, enfin peu importe, ben, c'est une réalité. C'est vrai, non, c'est une réalité. Mais que le Christ, il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies, ça c'est la vérité. Voilà. On peut adapter. J'ai pas de travail. Ouais, c'est une réalité. J'ai pas de travail. Mais Dieu, il est là, il pourvoit tous mes besoins. Il s'occupe des oiseaux, des lys, des champs, etc. À plus forte raison, il va s'occuper de moi. Ça, c'est la vérité. Oui ou non? Ah. Alors du coup, je vais revenir sur la réflexion que j'avais eue avant de trouver cette phrase là sur la mort. Donc c'est une réflexion personnelle. Je me suis promis dans ma vie de refuser catégoriquement une phrase que j'entends beaucoup dans le monde profane. C'est une phrase que dit mon mari. Souvent. Et on était donc à la campagne avec une amie et on parlait de choses et d'autres. Et puis, on s'est mis à parler de la vie, de la mort. Et Nico, il dit, oui, bon, la mort fait partie de la vie. Et là, j'ai dit, non. Non, la mort, elle ne fait pas partie de la vie. Mais la mort, elle est complètement à l'opposé de la vie. Et donc, cette amie était avec nous. Et bon, je me souviens plus de toute la conversation, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, quand j'ai parlé de ça, elle me dit oui, peut-être. Alors peut-être que c'est un passage, quelque chose, parce que moi je me vois comme finalement si c'était une graine en terre qui va mourir. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que tu mets des visions dans les gens qui sont inconvertis en fait avant qu'ils le sachent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc non, la mort ne fait pas partie de la vie. Elle est à l'opposé. Parce que nous avons un champion. Nous avons un champion qui l'a affronté, qui l'a vaincu. Paul, il se moque de la mort. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Il se moque. C'est quoi un aiguillon, un dard? C'est le péché. Et notre champion, il a extirpé la racine même du péché. Notre champion, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il y a un poète, pasteur poète du XVIIe siècle, qui s'appelle George Herbert. Il a dit qu'autrefois, la mort était un bourreau, mais que l'évangile en a fait un simple jardinier. Quand mon papa est décédé, il y avait... mon papa était remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Il y a eu une double problématique pour moi à son décès. C'est que, en fait, des histoires d'héritage. Et bon, il y a eu la mort de mon papa, mais il y a eu aussi, en tant que fille, il y avait un problème. C'était pas le fait de, comment dire, c'était pas matériel, mais le fait de laisser un héritage, de laisser quelque chose à son enfant, c'est le reconnaître en tant que son propre enfant, en fait, en tant que fille de Jean-Jacques. Mon père s'appelait Jean-Jacques. Et bon, il a fait comme il a pu, hein, mon père, hein, pas de souci, mais je me suis sentie dépossédée, en fait, déjà. Et quelques temps après, j'ai fait un rêve. Je voyais mon père, il y avait Dieu, et il y avait un petit mur entre les deux. Mais la gloire, la présence de Dieu, elle était immense, que de toute façon, ça traversait le mur, ça allait jusqu'à mon père. Et là, mon père, il me regarde et puis il me dit, tu sais, il me dit, j'ai manqué de discernement, tu sais, dans ma vie, dans mon mariage. Il m'a dit des choses mais qui m'ont consolée, mais il a dit des choses, on sentait qu'il parlait. Il était tellement proche de Dieu qu'il disait des paroles d'une sagesse et d'une consolation qui étaient extraordinaires. Et le plus beau là-dedans, c'est que mon père, il était athée. Donc moi, pour moi, c'est important aussi qu'on puisse, quand on a des gens dans notre famille, nos amis, qu'on se demande quand ils partent, où ils vont. C'est important, ça soulève des questions pour nous. Et j'ai trouvé un texte qui résume la providence de Dieu, sur les croyants aussi, hein, mais sur les non-convertis, les personnes, enfin, athées, agnostiques. C'est la même incrédulité, c'est celle de Thomas qui est face à la résurrection, et qui a fait dire à Paul, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc je vais vous lire ce passage. C'est un livre de Timothy Keller. Donc, je pars de là. Hein. Bon, pour finir, hein, Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus dit en substance que nous n'avons pas besoin de le voir avec nos yeux physiques pour parvenir à croire pleinement en la résurrection et à en être transformés. C'est vrai, ainsi que nous l'avons vu pour Jean. Pourquoi alors Jésus s'est-il montré à Thomas? Pourquoi a-t-il bénéficié d'un traitement de faveur? Souvenons-nous que Thomas était un apôtre et que ses premiers apôtres ont été envoyés pour être les premiers enseignants et évangélistes. L'une des caractéristiques de ces apôtres était d'avoir été personnellement formé par Jésus et d'avoir été témoin de sa résurrection. Thomas devait donc avoir un traitement de faveur. Jésus agit ici pour garantir sa qualification en tant qu'apôtre. Et quoi que Jésus dise que nous n'avons pas besoin d'avoir vécu la même expérience oculaire que Thomas pour croire, nous avons besoin de faire la même découverte que Thomas. Nous avons besoin de voir Jésus œuvrer patiemment dans nos vies afin de nous amener à lui. Dans un conte pour enfants de Lewis, le cheval et son écuyer, vous savez, c'est celui qui a fait Narnia, le personnage principal, Sacheta, tente de s'échapper d'un pays lointain pour revenir à Narnia. Bah tiens, il y a Narnia là. Cependant, pendant son voyage, tout semble mal tourner. Il tombe sans cesse sur des lions sauvages qui le menacent de différentes façons. À un moment donné, il se retrouve dans le brouillard et ressent une présence qui le guide pour en sortir. Une voix entame une conversation avec lui. Shasta raconte son périple et dit: vous ne pensez pas que c'était de la malchance de rencontrer autant de lions? Il n'y avait qu'un seul lion, dit la voix. Qu'est-ce que vous me chantez là? J'étais le lion. Et comme Shasta en restait bouche bée, la voix continua. J'étais le lion qui t'a forcé à rejoindre Aravis. J'étais le chat qui t'a rassuré au milieu des maisons des morts. J'étais le lion qui a éloigné de toi les chacals pendant que tu dormais. J'étais le lion qui a donné aux chevaux effrayés l'énergie du désespoir pour le dernier kilomètre, afin que vous puissiez arriver à temps auprès du roi Lune. Et j'étais le lion dont tu ne te souviens pas, qui a poussé le bateau dans lequel tu étais couché, enfant à demi-mort, pour qu'il s'échoue sur le rivage, où un homme était assis, réveillé à minuit pour t'accueillir. Dans cette histoire, Lewis se souvient de son propre cheminement vers la foi quand il était athée. Et en vous rapprochant de la foi, vous réalisez que le Dieu auquel vous venez de croire n'est jamais passif. Jésus est vivant, il est ressuscité et il vous cherche activement. Comme Thomas, vous pouvez le voir, éberlué qu'il marchait tout le temps à vos côtés. Vous voyez, il y a une providence préparée quelque part qui est là et qui vient pour anéantir les plans de l'ennemi qui veut causer la perte de l'homme. Le dernier mot, c'est « royaume de Dieu ». Alors, dans l'Épître aux Colossiens 1, 11 à 13, Paul dit qu'il remercie avec joie le Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de son peuple dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et qui nous a transférés dans le royaume de son Fils. Alors souvent, cette question elle nous est posée. Tu as accepté Jésus comme sauveur, mais est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Qu'est-ce qu'un Seigneur? Un roi, c'est une personne qui règne sur un royaume, on est d'accord, hein? Il a une autorité et puis il y a des propres rois de ce royaume. Et j'ai parlé tout à l'heure qu'en prenant conscience de la mort et de la résurrection en Christ, c'est comme si j'avais changé de pays. Donc nous, nés de nouveau, nous sommes assujettis à ce roi, au roi du royaume, puisque nous avons changé de pays. Donc oui, et il est forcément notre Seigneur, je ne vois pas comment. Alors, effectivement, on peut parler d'obéissance, hein, mais je ne vais pas parler ni de ça, ni des lois ou exigences du royaume. Mais moi, au fur et à mesure, je découvre à quel point, je ne peux pas dire les valeurs, mais je ne sais pas quel mot je pourrais mettre, c'est peut-être le mot identité, les valeurs l'identité de ce monde-là s'oppose complètement avec les valeurs et l'identité du monde. Moi, j'aime ça, en fait. Parce que ça nous dit que les derniers seront les premiers, ça nous dit que les pauvres sont riches, ça nous dit que les sages sont fous, ça nous dit que les faibles sont forts, et ça, cet inversement, moi je trouve que ça fait du bien. On n'utilise pas les mêmes armes, on ne lutte pas contre les humains, mais on lutte contre d'autres souverains. Et le lion, il est devenu agneau. Et c'est avec puissance que Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est la même puissance, cette puissance infinie qui soutient l'univers, cette puissance-là, elle habite aujourd'hui en nous. Voilà, soyez bénis.